Tout de même, vous avez travaillé effectivement sur les périodes un peu plus de tension également, avec les expulsions en particulier au XIIIe ou XIVe siècle surtout. Vous avez travaillé autour de ça, Daniel Liancou. Il y a tout de même cette question de la conversion forcée, de la conversion voulue aussi de certains. Pour, dites-vous d'ailleurs, au temps du roi René, lorsque vous avez travaillé sur le roi René, plus tard, donc pour d'une certaine façon se conformer à l'idée que le reste de la société se fait de la progression du cursus honorum, de la façon de rentrer dans la société, etc. Et vous expliquez bien qu'il y a des tensions à l'intérieur de la communauté juive, des communautés juives provençales en particulier, entre ceux qui disent, eh bien, on va continuer à pratiquer notre religion, ceux qui, dans la même famille, disent, on va se convertir, ceux qui gardent encore les livres et ceux qui les donnent à leurs enfants ou qui les font disparaître. Et au bout du compte, on voit bien qu'il y a une volonté, là aussi, de rassembler autour d'un peuple qu'on pourrait dire chrétien, de se rassembler autour d'un peuple chrétien, d'une sorte de norme en tous les cas pour certains d'entre eux, et d'abandonner leur religion.
Oui,
Daniel
mais
Liancou.
ce que vous évoquez, c'est à la fin du processus,
Oui, bien
à
sûr, bien
l'extrême
sûr.
Fin du XVe siècle, quand précisément toute l'Europe s'est vidée de juifs, progressivement. Il y a eu la première expulsion d'Angleterre en 1290, et puis suivie de très près par le bannissement de Philippe le Bel, qui affecte justement le Languedoc français, qui est compris dans le Royaume de France. Et ils auront, le XIVe siècle, un siècle de tergiversation, de renvoi, de rappel. Et puis finalement, à terme, c'est en 1394 que le Royaume de France se vide définitivement de juifs. La religion juive n'est plus licite dans le Royaume de France à partir de Charles VI, dit le fou. Et puis, effectivement, ce que vous évoquez, dans le comté de Provence, indépendant du Royaume de France, ils ont par chance un siècle de sursis. Mmh. Le XVe siècle, ce siècle de sursis qu'ont également, en dépit de crises, les Juifs ibériques aussi. Donc, dans cette fin du XVe siècle, les aires d'habitat juif se rétrécissent. Et quand le comté de Provence est rattaché au royaume de France et que, après la mort du roi René, les choses se gâtent, effectivement, et on ne voit pas pourquoi le comté de Provence n'aurait pas calqué sa politique sur le royaume de France dont il fait désormais partie. Et c'est ainsi que les choses se précipitent et on intime l'ordre, ben, comme dans la péninsule ibérique, comme en Espagne, comme au Portugal, où toute une communauté va être convertie massivement avec ses pauvres, ses riches, ses rabbins, ses médecins, sa gente féminine, etc. Eh bien, dans ce contexte d'éradication de la communauté juive médiévale à la fin du XVe siècle, dans le comté de Provence, effectivement, ils ont le même choix, se convertir ou partir. Eh bien, à l'extrême veille du bannissement, alors qu'au temps de leur âge d'or, il y avait environ 12 000 à 15 000 juifs dans le comté de Provence, à la veille du bannissement, ils ne sont plus que 2 000 individus. Entre-temps, il y a eu des émeutes, des départs vers la Sardaigne pour les juifs de Marseille, 200 juifs de Marseille partent pour la Sardaigne après l'émeute d'Arles que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, à l'extrême veille du bannissement, ils ne sont plus que 2 000 individus. Et vous avez raison, un millier opte pour le départ dans le Contat, dans l'Italie de Patrick Gilly, dans les Balkans, une maigre vaguelette en Afrique du Nord, au Maghreb. Et puis, il y a ce millier d'individus qui optent pour désormais le christianisme dans une Provence sans juifs. Et ça devient des nouveaux chrétiens, des néophytis, qui prennent les noms très glorieux de leurs parrains, souvent issus de la noblesse provençale. Et c'est ainsi que Lunel devient Guillaume de Roquebrune et d'Entrecasteaux, les Amiel, les Estienne, et donc une population dotée désormais de noms prestigieux.